Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre magazine Histoire et Patrimoine, nous recevons Stéphane Ilan, animateur du patrimoine de Laval, pour parler d'Anne d'Alègre. Alors Stéphane Ilan, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donné le 16 février dernier une conférence au Musée des Sciences de Laval sur une des dames les plus connues de l'histoire de cette ville, la fameuse Anne d'Alègre. Alors, pour commencer, peut-être une première question, qui est cette Anne d'Alègre ?
Alors, Anne d'Alègre, pour la resituer dans un cadre chronologique, elle est comtesse de Laval, épouse de Guy XIX, maman de Guy XX. On rappellera que traditionnellement, tous les seigneurs de Lavalois, depuis les origines, depuis le XIe siècle, ont suivi et ont adopté ce patronyme de Guy. Et pour la resituer plus précisément, elle est née vers 1565, donc dans la seconde moitié du XVIe siècle. Elle décède en 1619. C'est une contemporaine d'Henri IV.
Et c'est aussi évidemment une noble.
Voilà, c'est une noble. Elle est originaire d'une famille venant du Velay, donc sur les contreforts du massif central, et installée depuis une génération en Normandie à l'époque. Et elle va se marier en 1583 avec Paul de Coligny, c'est-à-dire Guy XIX de Laval, et donc c'est à ce moment-là qu'elle devient comtesse de Laval.
Ça montre aussi à cette époque la puissance de Laval, puisque comme vous le rappelez, Coligny c'est quand même un nom qui est très célèbre à cette époque, c'est un des fers de lance de la réforme protestante contre le catholicisme.
Voilà, l'amiral de Coligny, je le rappelle, seconde moitié du XVIe siècle, c'est le chef du parti protestant en France, qui joue le rôle de premier ministre de Charles IX, et qui fait partie en août 1572 des victimes de la Saint-Barthélemy. Et donc en fait, voilà, cette famille est éminente et dispose d'ailleurs en bien propre à cette époque du comté de Laval.
Au niveau de la fortune de Laval, aujourd'hui c'est vrai que Laval, de par sa taille modeste, on ne peut pas penser que Laval a eu un prestige quand même assez important à l'époque, et pourtant c'est le cas.
Oui, c'est le cas. Si on remonte aux origines de Laval, Laval c'est une fondation du XIe siècle que l'on doit à un baron au niveau relativement modeste. Mais ces seigneurs de Laval ont eu un mérite, c'est qu'ils n'ont eu de cesse tout au long du Moyen-Âge d'essayer d'augmenter leur emprise territoriale. Alors, toujours en regardant vers l'ouest, c'est assez étonnant. Début du XIIIe siècle, par une politique habile de mariage, on va voir les seigneurs de Laval devenir également barons de Vitré. Donc position très avantageuse. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, on les voit intervenir en tant qu'arbitre dans la guerre de succession de Bretagne. Et puis par la suite, début du XVe siècle, on est dans le contexte de la guerre de Cent Ans, après la défaite d'Azincourt en 1415, le parti français est vraiment au fond du trou. Je rappelle pour les auditeurs qu'à cette époque, les trois quarts du royaume de France sont aux mains soit des Anglais directement, soit de leurs alliés bourguignons, et que le prétendant à la couronne de France, le dauphin Charles, ses ennemis se gaussent un petit peu lui en le surnommant le roi de Bourges. Il ne contrôle plus que le Val-de-Loire à l'époque. Et alors que cette position est très peu avantageuse, Anne de Laval, qui dirige la seigneurie pour ses deux fils, le futur Guy XIV et puis son frère cadet André de Loéac, qui sera appelé à devenir par la suite maréchal de France, eh bien elle va les envoyer vers le dauphin Charles, et on verra ces deux hommes se battre aux côtés de Jeanne d'Arc, aux côtés de la Pucelle d'Orléans, et contribuer finalement au sacre de celui qui devient Charles VII. Donc à Reims en juillet 1429, et c'est à ce moment-là que la baronnie de Laval devient un comté. Alors je rappelle que d'un point de vue étymologique, le comte c'est le compagnon du roi. Donc à partir de là, début du XVe siècle, on va dire, les seigneurs de Laval deviennent importants. Ils entrent dans l'entourage royal direct. On va les voir par la suite participer aux guerres d'Italie, fin 15e, début 16e, et puis après, par la suite, consolider toujours cette position avantageuse par toute une série de mariages. On voit notamment Guy XVI, au tout début du XVIe siècle, se marier avec Charlotte d'Aragon, qui est une princesse, voilà, une princesse espagnole.
Donc justement, de Charles plus tard, donc à Charles IX, c'est l'époque des guerres d'Italie, et là encore, les comtes de Laval sont au rendez-vous.
Voilà, ils sont présents sur le champ de bataille. Ils accompagnent Louis XII, puis plus tard François Ier. Ils sont vraiment dans l'entourage royal. J'évoquais François Ier, 1525, c'est la funeste bataille de Pavie. Le roi François est capturé par son ennemi Charles Quint. Il est envoyé en Espagne, à Madrid, en captivité. Et puis dans la plus pure tradition médiévale, on va rançonner les grands seigneurs français pour libérer le roi. Et François Ier établit la liste des gens qui sont en état de payer la rançon, et les seigneurs de Laval apparaissent clairement dans les tout premiers noms de cette liste. C'est dire leur position, et ça se traduit également au niveau de leur patrimoine immobilier. En 1540, les seigneurs de Laval, en l'occurrence Guy XVII, font construire, alors ce que les Lavallois appellent aujourd'hui à tort le château neuf, c'est pas un château, c'est la galerie Renaissance du château de Laval, donc élément de prestige du château français au XVIe siècle. Alors des galeries, on en trouve très peu d'exemples, si ce n'est dans de grands châteaux,
château de la Loire.
Des grands châteaux royaux. Alors je pense notamment à celui du château de Chenonceau, voilà, qui était quand même le château de la maîtresse du roi, Diane de Poitiers. Je renvoie également à la galerie du château royal de Fontainebleau. Voilà, œuvre de François Ier. Donc c'est ce n'est pas n'importe qui au XVIe siècle est en mesure de construire une galerie. Donc c'est dire la position enviable des seigneurs de Laval et la fortune qui était la leur à l'époque.
Et d'ailleurs, ce Guy XIX, qui je le rappelle est né Paul de Coligny, on a retrouvé son certificat de mariage et une titulature donc assez longue, je vous l'ai dit. C'est le Guy XIX qualifié de très haut et très puissant seigneur messire Guy, comte de Laval, Montfort, Quintin et Harcourt, baron de Vitré, La Roche-Bernard et Ancenis, sire de Rieux, Rochefort, Roche-en-Or, fils et feu et très haut et très puissant de messire François de Coligny et dame Claude de Rieux, ses pères et mères, et là c'est intéressant, ayant domicile au château de Vitré. Pourquoi justement Vitré et pas Laval ?
Parce que Vitré est une place forte protestante. Voilà. À partir du moment où les seigneurs lavallois sont devenus protestants, à partir de l'époque notamment de Guyonne la Folle, donc cette famille de Laval-Rieux à laquelle a succédé la famille Laval-Coligny, ces gens-là préfèrent résider à Vitré, qui est une place forte protestante, Laval restant une ville majoritairement catholique.
Et donc, vous l'avez dit, Anne d'Alec, c'est la femme de Guy XIX, et ce Guy XIX, il a un sort en particulier, il meurt pendant la guerre de religion.
Voilà, il va mourir à l'étranger. Anne d'Alègre va se retrouver veuve après 3 ans de mariage. Veuve, mais néanmoins mère d'un bambin, le futur Guivin de Laval. Alors, malheureusement pour ce Guivin, il va pas recevoir les soins qu'il aurait pu espérer, dans la mesure où sa maman va l'abandonner à sa grand-mère et qu'elle choisira sciemment de s'installer à Paris, où à partir de là, elle va vivre une vie de véritable courtisane.
Et donc Guivin, qui est le dernier seigneur originel des seigneurs de Laval, et donc qui naît certes de deux parents protestants, mais qui meurt entre guillemets en bon catholique.
Voilà, alors c'est un parcours qui est vraiment, vraiment étonnant. Parents protestants, élevés dans la foi de Luther au château de Sedan durant son enfance. Donc on aurait pu le voir évoluer au sein des forces protestantes. Et puis c'est quelqu'un qui, alors sans doute par rejet de sa mère, pourquoi pas, c'est une hypothèse qu'on peut poser, va embrasser la foi catholique. Il va faire un grand voyage en Italie en 1604. Il va avoir l'occasion d'ailleurs d'être reçu par le pape lui-même. Et puis voilà, c'est une révélation à l'époque pour lui. Il se convertit au catholicisme à son retour en France. Alors on pourrait dire, bah oui, mais bon, Guivin, c'est sans doute un petit peu comme Henri IV, Paris vaut bien une messe, c'est un converti opportuniste. Pas véritablement, c'est quelqu'un qui est vraiment touché, je pense, à cette époque-là par la grâce. Il va le prouver par la suite, parce que au printemps 1605, il quitte tout, il quitte la France, pour partir combattre les Turcs, donc se lancer dans la croisade à l'époque où les forces ottomanes sont en Hongrie. Il va se jeter, arriver sur le champ de bataille, dans la mêlée, et puis il va trouver la mort de façon assez idiote. Les chroniqueurs racontent qu'il n'avait pas eu le temps d'endosser convenablement son armure et d'endosser notamment les tassettes, c'est-à-dire les parties métalliques qui protège le bassin, et là il a été pris sous un feu de mousqueterie, et puis une balle est venue justement se loger dans le bassin, ce qui a provoqué une hémorragie et sa mort à court terme.
Et donc Guivin meurt, avec lui meurt la première famille des seigneurs de Laval, c'est exact.
Alors du moins c'est la famille de Laval avec ses descendants directs qui s'éteint en 1605. À partir de 1605, eh bien pour trouver un successeur, du moins un héritier pour ses biens, on est obligé d'aller chercher les cousins. et les cousins en question. Le cousin en question, c'est le duc de la Trémoille. Alors, le duc de la Trémoille, c'est un grand seigneur également,